le Seigneur. Nous nous réjouissons d'être dans ta présence, ô notre Dieu. Et à chaque fois que tu réunis tes enfants, tu as toujours une parole à leur communiquer. Seigneur, nous avons besoin que ton esprit vienne embraser et qu'il repose sur cette assemblée qui est réunie à ton nom. Merci Seigneur parce que tu m'as tiré parmi tant d'autres pour que je sois le messager d'aujourd'hui. Je te demande s'il te plaît Seigneur, est-ce que ton esprit continue à faire son travail à moi et sur moi? Ce travail, Seigneur, qui consiste à communiquer tes oracles dans leur sainteté. Je te bénis, Seigneur, parce que nous tous qui sommes réunis à ces lieux, nous déclarons que nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Oui, Seigneur, nous sommes au devoir de ta parole. Te demandons à ce que cette parole soit une parole de vie et qui nous permet de faire un bond avec toi et de marcher à ta suite. Merci de nous bénir, merci de nous faire du bien, merci de nous accorder cette bonté. Je suis sûr et certain, Seigneur, que tu vas bénir chacun et chacune à la hauteur du défi qui est au devant de lui. Nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce et la paix vous soient données, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur est bon, c'est lui qui nous réunit. Et il nous réunit pour nous communiquer sa volonté. Vous venez de suivre la lecture de ce texte qui fait l'objet de notre méditation de ce matin. Et je voudrais conduire cette méditation autour du thème « Demeure disciple » ou « Demeurons une église des disciples du Christ ». Amen. Chacun est appelé à demeurer disciple. Ou à demeurer, nous tous ensemble, à demeurer une communauté des disciples du Christ, une église des disciples du Christ. Et c'est ça le vœu de notre Dieu. Vous allez vous rappeler que depuis la semaine passée, nous avons mené une réflexion autour du disciple de Jésus-Christ. Attaquer l'église. Je voulais juste peut-être quelque part rappeler qui est disciple de Jésus. Qui est disciple de Jésus-Christ? Et la semaine passée, il nous a été rappelé que c'est celui-là qui a pris un engagement de suivre Jésus-Christ comme son maître. Comme son maître. C'est lui qui est capable de placer son pas dans le pas de Jésus-Christ et qui marche de progrès à progrès. Depuis la semaine passée, mes bien-aimés, nous sommes en train de découvrir ce que le Seigneur Jésus-Christ veut de son disciple. Nous avons eu à découvrir que être disciple, c'est prendre un engagement qui est radical. C'est prendre un engagement radical pour une vie radicale. C'est que nous sommes appelés à mener une vie. Et une vie qui n'a qu'une seule boussole. Une seule boussole qui est Jésus-Christ. Une vie qui a une seule envie, celle de plaire à Jésus-Christ. Nous sommes appelés à mener une vie qui n'a qu'une seule priorité, Jésus-Christ. Alléluia, Jésus-Christ. Que Jésus-Christ soit notre chant. Ce matin, je voudrais assez que nous puissions découvrir d'autres dimensions. Mais avant que nous ne puissions nous plonger dans la méditation du texte que nous avons lu, j'aimerais juste rappeler encore une fois une autre dimension que nous avons découverte en tant que disciples. C'est que l'humilité et l'obéissance sont les marques du vrai disciple. Comme le maître s'est humilié lui-même. La parole de Dieu nous dit en Philippiens, prenant la forme d'un esclave. Et il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Et la mort sur la croix. Et la parole de Dieu nous invite à avoir les sentiments à qui était en Jésus-Christ. ce sentiment d'humilité, ce sentiment d'obéissance. Et vous le savez bien que nous vivons maintenant dans un monde où tout est permis, où tous les coups sont permis. Il y a une sorte de révolte que nous voyons. Il suffit seulement de regarder votre petit écran, vous allez voir combien que le monde est en train de connaître un revirement sans pareil. Et à chaque fois, il y a des troubles. Il y a tel groupe qui se révolte contre tel autre, tel groupe qui se révolte contre les responsables. Et alors, en fait, quand on se pose la question, finalement, nous allons où? Mais un disciple doit avoir les sentiments qui sont à Jésus-Christ, sentiments d'humilité et d'obéissance. Ces marques caractéristiques doivent être opérationnelles dans la vie du disciple. Maintenant, je vous invite à découvrir ce que le Seigneur veut encore que nous puissions faire comme expérience, comme dimension dans notre intimité avec lui, dans notre vie du disciple. Mais le texte que nous venons de lire, mes bien-aimés, vous allez constater que ce n'est pas évident. On nous demande de faire quoi? Découper quoi? Et découper quoi? La main. Quand je vous regarde, vous avez tous et toutes vos deux mains. Et de faire quoi encore? Découper le pied. Quoi d'autre? De s'arracher même les yeux. N'est-ce pas que le Seigneur nous demande trop? Et on peut avoir cette impression-là, comme si le Seigneur nous demande ce que nous ne pouvons pas faire, n'est-ce pas vrai? Mais c'est ça ce que le Seigneur nous demande, en fait. Il veut à ce que nous puissions comprendre que ce n'est pas impossible, mais qu'il nous met sur le chemin, à un chemin qui doit être ce chemin-là, où il y a des choses et des choses pour lesquelles nous devons avoir des privations. Demeurer disciple de Jésus-Christ, d'abord, la première des choses que nous trouvons dans ce passage, c'est de se préserver d'être un scandale envers l'un des petits. Et c'est ce que nous trouvons au verset 42. Mais si quelqu'un était une occasion de chute pour l'un de ces petits qui croit, il vaudrait mieux que pour lui qu'on lui mette autour du cou une meule de moulin et qu'on le jette où c'est? Dans les lacs. Se préserver d'être un scandale envers l'un des petits. Le texte commence par nous présenter le danger que peut courir le disciple dans la situation où il fait tomber, il fait trébucher un des petits. Et alors, pouvez-vous poser la question, à qui sont ces petits-là? La parole de Dieu nous dit, pour l'un des petits, qui font quoi? Qui croit? Alors mes bien-aimés, mes frères et sœurs, s'il y a des gens auxquels s'identifie le Seigneur, c'est qui? Ce sont les petits qui croient. Les petits qui croient. Et vous allez voir même dans d'autres évangiles, comme l'évangile de Matthieu au chapitre 25, où il nous parle du dernier jugement, et là encore une fois, le Seigneur s'identifie au plus petit de mes frères. Ce qui est touché au plus petit qui croit, c'est touché à la prunelle de l'œil de Dieu, de l'œil de Jésus-Christ. Et vous voyez déjà, à travers cette parole, et à travers surtout l'évangile de Matthieu, le roi répondra, nous dit l'évangile de Matthieu, vraiment je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela au moindre de mes frères, que voici. Et lui, second, s'est dit, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de mes plus petits, c'est à moi à que vous l'avez fait. Les petits auxquels s'identifie notre Seigneur Jésus-Christ, ce sont ces petits qui sont fragiles, qui sont encore fragiles. Le petit et qui croit. Donc c'est toute personne qui marque le premier pas dans la connaissance de qui est Dieu, de qui est Jésus-Christ pour lui. Il marque le premier pas dans la foi, dans la vie chrétienne. C'est ça, ce qu'il appelle le plus petit. Il n'est pas encore mûr dans la foi. Et à peine qu'il vient de marquer le premier pas de la foi en Christ, c'est qu'il est un nouveau converti. Il n'a pas encore la peau épaisse pour supporter à ce qu'il y a. Et c'est en faveur de cette personne-là à qui Jésus plaide ce matin. Devant ce petit, les disciples portent une lourde responsabilité. Mais bien-aimés, vous qui êtes là depuis le rez-de-chaussée jusqu'à la mezzanine, reconnaissez que nous avons une responsabilité noble dès que nous acceptons à ce que le Seigneur nous reconnaît le fait d'être son disciple. Il y a une responsabilité que nous portons. Alors s'il y a des choses qui ne doivent pas arriver à un disciple et auxquelles il doit faire gaffe dans sa vie des disciples, c'est de porter la responsabilité de la perdition des autres. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire attention par rapport à cela. Vous qui m'écoutez ce matin, nous devons faire attention. Attention de porter la responsabilité de la perdition à des autres. C'est la chose la plus pire qui puisse arriver aux disciples. D'être l'occasion de la perdition ou du découragement à des autres. Imaginez en famille, nous sommes papa, nous sommes maman, et qu'un jour, toi, t'as que responsable de la famille et que tu interdises à tes enfants de ne pas saliser à prendre de la boisson alcoolisée. Et qu'un jour, ça t'arrive parce que tu n'as pas fait attention, tu reviens à la maison dans un état minable parce que tu as pris un peu trop. Même peu, parce que les poros, quand ils apprennent à prendre la boisson à l'âge adulte, ils sont désagréables. On ne vous a pas appris ça depuis votre jeune âge. Est-ce que c'est maintenant à l'âge adulte que tu vas avoir du goût pour? Et quand tu arrives à la maison dans un état lamentable, c'est tout un chacun qui te regarde. Ah, il y a même des gens qui pleurent pour toi. État minable. Tu sais combien que tu es en train d'être à l'origine de la perdition, même de ceux de membres de ta famille. Et immédiatement après, tu commences à vomir. Tu appelles tout le monde, même ceux qui sont déjà au lit, qui se reposent, tu appelles tout le monde, parce que pour toi, c'est maintenant la soirée qui commence. Dans un état minable. Et puis après, on se met à vomir devant même les enfants. Mais bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous montre le jugement qui est réservé à ce type de disciples ou bien à ce type d'hommes qui se considèrent comme disciples. Ce qui est comme jugement par rapport à cette personne, c'est lui attacher des pierres au cou, le jeter dans les lacs pour que sa dépouille ne puisse même pas flotter. C'est dur cette parole de Jésus-Christ. Elle est trop dure. Mais c'est parce qu'elle veut nous remettre sur le chemin du possible, à que les disciples doivent faire attention d'être responsables de la perdition des autres. Nous devons veiller à chier notre vie. En tant que disciples, mes bien-aimés, nous devons demeurer d'un bon côté, que d'être un scandale, que de faire trébucher les plus petits. Parce que les plus petits sont dans la visière de notre Seigneur. Il ne veut pas ce que nous puissions les scandaliser. La deuxième chose sur laquelle je veux mettre un accent particulier, c'est que demeurer un disciple de Jésus-Christ, se faire continuellement un travail sur soi-même, un travail de fond sur soi-même. Et nous voyons ça à partir du verset 43 jusqu'au verset 48. Il ne doit pas faire trébucher par les différentes parties de son corps, les différents organes de son corps. Et alors, la parole de Dieu nous montre les parties qui sont représentées ici. Il s'agit de quoi, vous m'avez dit? La main, Ensuite, le pied et enfin, l'œil. La main et le pied pour être coupés et l'œil pour être arraché. Parole très très difficile à comprendre. Je dirais même une parole scandaleuse parce que Jésus veut à ce que nous puissions prendre conscience de certaines choses. Et il pousse, attaquer Dieu, il pousse l'audace plus loin et de nous mettre sur le chemin du possible. Mais alors on peut se poser la question, pourquoi ces trois organes, la main, le pied et l'œil? Quand je lisais la parole de Dieu, je me suis dit, non, je n'ai pas trouvé des raisons profondes pour le choix de ces trois parties. Mais convient-il de redire que c'est par la main que nous faisons quoi? Nous faisons des choses. C'est par la main que nous faisons des choses. Nous travaillons avec la main. Nous transformons les choses avec la main. C'est que c'est grâce à la main que nous sommes devenus des homo faber. C'est que nous pouvons fabriquer des choses. Nous pouvons les fabriquer. Alors ce que nous faisons, je dis bien, que ça soit juste une petite activité à laquelle tu es appelé, ce que nous faisons, ce que ça reflète réellement, que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Que ça soit à la maison, mes bien-aimés, nous devons nous poser cette question-là. Ce que nous posons comme acte révèle-t-il que nous sommes des disciples de Jésus-Christ en famille, à l'école, à l'université, dans notre milieu de travail, dans notre business? Est-ce que ce que nous faisons révèle que nous sommes réellement disciples de Jésus-Christ? Vous savez qu'en famille, des fois, il y a des choses qui se passent. Dieu nous a fait la grâce d'être nés chacun, chacune dans une famille. Et il nous donne la grâce aussi de composer des familles. Et en famille, il se passe beaucoup de bonnes choses et des choses un peu décevantes. N'est-ce pas vrai, mes bien-aimés, qu'en famille, quand la table est dressée et que vous commencez juste à couper la première motte, vous savez qu'il s'agit de la touche de qui en famille? Et vous vous dites, parce que tu l'as trouvé bizarre avec des ampoules à l'intérieur et ça ne donne plus d'appétit. Nous faisons. Nous agissons. Et donc notre vie est marquée par ce que nous faisons tout le temps à l'université. Quand il y a interrogation ou examen, ah, tu es comme un chien constipé, quoi. De regarder à gauche et à droite s'il n'y a pas un voisin que le Seigneur a placé à côté de toi. Bayama, on va aller où avec ça? Dans le milieu du travail, on arrive à se compromettre parce que il y a des choses qui s'y passent. On n'arrive pas à résister contre la corruption sous toutes ses formes. Ce que nous posons comme acte, mes bien-aimés, par moments, ça peut se constituer en entrave à la foi d'un autre. Je venais de dire, un disciple est tricheur, est-ce qu'il l'est encore? Que ce soit à l'école comme à l'université. Un disciple qui ne dépend que de voisinage, parce que c'est ça ce que vous trouvez comme. Alors on dit, à chaque fois, je dis, mais n'est-ce pas là que tu es en train de tricher? Non, non, je suis en train de vérifier seulement, prof. Tu vérifies chez le voisin? Un disciple tricheur, un disciple qui trafique pour avoir des points. Et il fait tout pour que cela soit à son actif. Mais bien aimé, nous devons savoir que quand nous faisons cela, ceux qui sont autour de nous nous regardent et se posent la question. Où est les disciples dans ce cas d'espèce? C'est qu'à travers ce que nous faisons, ce que nous posons comme acte, à travers notre agir, et c'est ça, c'est que nous devons veiller à ce que nous faisons puisse glorifier le Seigneur. La deuxième partie du corps, c'est le pied. Et avec le pied, nous pouvons nous déplacer facilement. Nous pouvons quitter un lieu pour un autre. Nous pouvons faire la marche, nous pouvons faire le jogging parce que nous voulons être en bonne santé. Et Jésus a dit qu'il faut couper le pied. Il voulait nous ramener à l'ordre. Il voulait nous ramener à nous-mêmes. Et en nous posant la question de savoir, quelles sont tes fréquentations, mon bien-aimé dans le Seigneur? Où est-ce que tu vas à chaque fois? Quelles sont tes fréquentations? Quels sont les espaces à que tu fréquentes? Et tu sais, et quoi? C'est que tes fréquentations peuvent bousculer la foi d'un plus petit. Troisième organe, je vais y aller un peu plus vite, c'est l'œil. Il s'agit de l'œil, mes bien-aimés. C'est au fur et à mesure que je suis en train de comprendre que l'œil est très important. Et beaucoup de gens le mettent au premier plan par rapport à nos organes sensoriels. Et un jour, je devais passer un test et on m'avait posé la question de savoir, avec les autres, quel est l'organe le plus développé chez l'être humain? C'est sûr que vous allez dire, c'est l'œil. Mais moi, j'avais dit le contraire. Très, j'étais à côté de la plaque, selon l'examinateur. Moi, j'avais écrit, les toucher. J'ai eu 0 sur 10. Mais malgré ces zéros-là, j'ai continué à exister, à signer que ça peut être les toucher. Mais ici, la parole de Dieu nous dit de faire attention, attention par rapport à l'œil. Vous direz que l'œil, c'est la lumière même de tout le corps. Parce que c'est par ce qu'il voit à que nous pouvons marcher. C'est par lui que nous voyons les choses. Et tu vois que, d'ailleurs, telle chose, je peux tirer profit dans ça. Et tu le regardes autrement. Tu dis, ok, comme je vais tirer profit dans cette opération-ci, hein, c'est que là, je vais directement m'y impliquer. Mais c'est par cet organe aussi que nous jetons un regard sur les autres. Ça peut être un regard qui est perverti. Ça peut être un regard de médisance. Tu me regardes. Franchement, il faut voir le regard que tu jettes sur moi. Je peux lire à travers ce regard-là que non, non, il n'est même pas un regard de médisance. Un regard qui élimine carrément l'autre sur ton chemin. C'est par l'œil, c'est par la vue. Et alors, quel regard avons-nous sur les choses? Quel regard avons-nous sur les choses, mes bien-aimés? Est-ce que c'est un regard qui me pousse à vouloir profiter sur tout ce qui s'offre à moi, alors qu'il nous est proposé de nous imposer une certaine privation? Est-ce que je dois embrasser tout ce qui se présente à ma vue? Les Congolais, avec ce papier vert ou bleu, à qui vient des États-Unis, sur lequel on voit les effigies des anciens présidents américains. À face de ces papiers-là, vous comprenez ce que je vais dire? Nous perdons des pédales. Les Congolais, prêts à trahir même son pays, une fois on lui donne un 50 balles ou un 100 dollars. Il est prêt à tout. Là, je vous ai dit que un Congolais, devant ces billets-là, il est comme un chien constipé, il perd de pédale, il n'arrive plus à se contrôler devant ce papier-là. Qui nous a envoûtés, mes bien-aimés? Qui nous a envoûtés par rapport à ça? Je me pose la question. Mais la vie du disciple, telle que nous le voyons ici, c'est que ces organes peuvent devenir une occasion de chute, hein, et le Seigneur nous demande à ce que nous puissions les couper. Et le Seigneur nous demande à ce que nous puissions l'arracher. C'est que nous devons savoir qu'il y a une conduite à prendre vis-à-vis de cela. Il s'agit de se poser maintenant la question de savoir. Et c'est chacun et chacune qui doit se poser cette question-là. Ai-je besoin de me séparer de quoi pour continuer à être un vrai disciple de Jésus-Christ? Est-ce que j'ai besoin de me séparer? Est-ce que j'ai besoin de me séparer de ce que je fais qui ne glorifie pas le Seigneur? Est-ce que j'ai besoin de me séparer de ces fréquentations, que ce soit des personnes, que ce soit des espaces, et qui peuvent conduire à la perdition des tout petits. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 9, verset 27, je vais dire ceci, c'est Paul qui le dit, « Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti de peur que, après avoir prêché les autres, d'être moi-même disqualifié. » Voilà ce que le Seigneur nous demande de faire en tant que disciple, pour demeurer disciple de Jésus-Christ et pour demeurer une église, Goma Ouest, demeurer une église de Jésus-Christ. C'est que nous tous, chacun et chacune, nous devons traiter durement nos corps. C'est ça couper la main, mes bien-aimés. C'est ça couper le pied, bien-aimés. C'est ça arracher l'œil. C'est de traiter durement son corps. Traiter durement son corps, c'est lui imposer certaines privations. Et pour attirer d'autres vers le Seigneur. Vous vous imposez, j'ai dit bien, une certaine privation. Dès que tout se passe à l'intérieur de vous-même, vous dites, ces fréquentations ici, niette, alors je coupe avec. Là, tu as coupé ton pied. Ce que je fais, je dois le faire mieux pour la gloire du Seigneur. Là, tu es en train de couper ta main. Et donner la juste valeur à ce que nous voyons, même si vous pouvez en profiter, mes bien-aimés, mais vous donnez une privation, vous dites, je ne franchis pas cette ligne rouge, comme le pasteur Vincent le dit à chaque fois. Je ne franchis pas cette ligne ici. Quel que soit ce que mes yeux m'offrent comme chose, non, je ne veux pas m'impliquer dans ça. Alors, c'est là que j'ai dit qu'il s'agit d'un travail de fond à qui doit se faire à l'intérieur de la personne. Il s'agit d'un travail qui doit être fait sur soi-même. C'est de prendre conscience, mes bien-aimés, que demeurer disciple de Jésus-Christ, il y a un prix à payer, mes bien-aimés. Il y a un prix à payer. Couper la main, couper le pied, arracher l'œil. Il y a un prix. La vie du disciple nous impose une certaine souffrance, nous impose une certaine douleur. La souffrance et la douleur en question, c'est l'abstinence à faire, l'abstinence à avoir et l'abstinence à fréquenter certaines personnes, à fréquenter certains milieux. C'est ça ce que le Seigneur nous invite à ce que nous puissions faire comme expérience, parce qu'il nous révèle encore une fois cette autre dimension de devenir disciple de Jésus. Et vers la fin du passage, Jésus maintenant s'adresse à toute la communauté. Après s'être adressé à chacun et à chacune, à chaque individu, l'Église est appelée à être composée des hommes et des femmes salés de feu, nous dit la parole de Dieu, qui se sont déjà imposés des souffrances et qui cultivent un autre esprit, un autre mode de vie vis-à-vis du monde, un autre style de vie qui va à contre-courant vis-à-vis de tout ce que nous voyons dans le monde. Mais bien aimé, c'est à cela que nous sommes appelés à tant qu'Église de Goma Ouest. Et d'être composé des hommes et des femmes et des enfants qui sont disciples et qui, se référant à l'Évangile, ils peuvent donner une autre saveur au monde. Le monde est malade, je vous assure. C'est nous qui devons donner la vie à ce monde. Même les grands de ce monde sont malades d'eux-mêmes. C'est nous qui pouvons encore donner la saveur. À ta Église composée de disciples. Les hommes et les femmes qui composent cette église de Goma Ouest sont appelés à vivre l'intimité avec Jésus-Christ, sont appelés à vivre l'amitié avec Jésus-Christ qui est portée par l'Évangile. Les hommes et les femmes qui composent cette église, si ils ou elles se réclament être des disciples, ils sont appelés à éviter toute discorde, que ce soit à l'intérieur de l'église, que ce soit à l'extérieur et dans les quartiers, dans le milieu du travail, où le Seigneur nous a placés. C'est de cette façon que nous allons sauver, nous allons apporter notre contribution, si petite soit-elle, pour empêcher la pétrification de ce monde. Le Seigneur nous invite à faire cette prise de conscience et à nous poser chacun et chacune la question: qu'est-ce que je dois couper? Qu'est-ce que je dois arracher dans ma vie? Je vais prier et je vais demander à ce que, s'il y a une personne qui veut à ce que nous puissions prier ensemble avec, qu'elle se mette debout pour que nous puissions prier et implorer la grâce de notre Seigneur pour qu'elle soit capable de prendre conscience de qu'est-ce qui doit changer, qu'est-ce qui doit être coupé et arraché dans sa vie. S'il y a quelqu'un, il peut se mettre debout et nous allons prier ensemble. Chacun est en train de prendre conscience. Et je voudrais que nous puissions nous placer au devant de notre Seigneur. Que la vie des disciples, ce n'est pas une vie douillette. Une vie où on doit dormir sur ses deux oreilles. Mais c'est une vie qui nous demande la souffrance. Est-ce que tu es prêt à souffrir pour le Seigneur, à cause du Seigneur, pour que cette appellation que le Seigneur te donne d'être son disciple soit effective dans ta vie? Prions le Seigneur. Je te bénis, mon Dieu, parce que tu es merveilleux. Tu vois mes frères et sœurs qui sont debout au devant de toi. Tu vois, Seigneur, combien ils ont été touchés par ta parole. Seigneur, je les place au devant de ta croix. Pour que, Seigneur, tu fasses ton travail de grâce dans la vie de chacun qui est debout. Pour que, Seigneur, il y ait des changements qui s'opèrent. Parce que tu viens de lui révéler qu'est-ce qu'il fait comme travail et qu'est-ce qu'il fait de ses mains. Quelles sont les fréquentations qui sont à la une dans sa vie et qu'est-ce qu'il voit, et il veut s'accaparer de tout ce qu'il voit. Mais Seigneur, tu veux à ce que nous puissions prendre des positions vis-à-vis de ce que le monde peut nous offrir comme spectacle. Et que nous puissions être des hommes et des femmes capables de se priver, capables de s'arrêter, qu'à bien même, les choses semblent être merveilleuses. Seigneur, merci parce que, même si ce sont des choses dans lesquelles nous pouvons tirer profit, tu nous demandes à ce que nous puissions être capables de nous priver même de ça. Seigneur, tu vois mon frère, tu vois ma sœur, debout devant de toi. Je te demande, s'il te plaît, que tu puisses te souvenir de chacun et que cette parole soit opérationnelle dans sa vie et que demain ou après-demain, qu'il témoigne de tes merveilles et de ce que tu aurais fait dans la vie de mon bien-aimé et de ma bien-aimée. Merci Seigneur parce que l'œuvre que tu commences, tu ne manques pas à la parfaire et à l'amener jusqu'à son accomplissement. Je suis tout à fait convaincu, Seigneur, que ton travail, tu l'as commencé dans le cœur de mes bien-aimés pour qu'ils appréhendent d'autres dimensions par rapport à la vie du disciple. Que tu sois glorifié et que tu sois celui qui vient à notre rencontre pour nous mener sur le chemin du possible. Parce que tu ne nous donnes pas tes oracles pour que nous puissions rester sur le chemin de l'impossible, mais tu nous les donnes parce que tu as confiance en nous et tu nous mets sur le chemin du possible. Que ce possible soit possible dans le cœur et dans la vie de mes bien-aimés qui sont debout devant de toi. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous nous recommandons à toi et nous disons Amen.
La parole de Dieu nous sur la vie. Celui qui la garde ne verra jamais la mort. La parole de Dieu nous sur la vie.
Of God.